France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et bienvenue sur Inter, nous sommes le vendredi 21 mai. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un cessez-le-feu au Proche-Orient grâce à une médiation de l'Égypte, Israël et le Hamas ont accepté de mettre un terme à 11 jours d'affrontement. Le secrétaire d'État américain doit se rendre sur place dans les prochains jours. Nous sommes à Jérusalem dès le début du journal. Après Agnès, les autres titres.
Parole de jeunes après l'annonce de l'ouverture de la vaccination aux plus de 18 ans à la fin du mois. Mode d'emploi du certificat Covid pour voyager cet été en Europe. Enquête sur le deal en ligne après les propos de Gérald Darmanin sur le réseau Snapchat. C'était mercredi sur France Inter. Et puis, demander le programme aux Vieilles Charrues. Festival parmi les plus attendus de cet été.
Invité, rendez-vous d'Inter ce matin à 7h45. Le débat éco avec Thomas Piketty et Dominique Seux. Ce matin, à quoi ressemblera la reprise économique après donc le confinement? 8h20, le grand entretien de la matinale avec la romancière et essayiste Chantal Thomas. Elle est membre de l'Académie française. Elle publie en format poche Café de la mémoire et Café vivre aux éditions Point Seuil. Ben voilà, vous le savez, on va parler des cafés, des terrasses et des bistrots avec elle. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Pour la première fois depuis 11 jours, la nuit a été calme dans la bande de Gaza et en Israël. Le cessez-le-feu est entré en vigueur à 1h du matin, heure française. Annoncé quelques heures plus tôt, il a provoqué des manifestations de joie à Gaza et en Cisjordanie. Un cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation de l'Égypte après des affrontements d'une intensité que l'on n'avait plus vue depuis plusieurs années. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Correspondant de France Inter à Jérusalem, le cessez-le-feu est donc pour l'instant respecté par les deux parties.
Oui, c'est respecté depuis 2h du matin ici, 1h du matin en France métropolitaine. Pas de roquettes gazaouis, pas de bombardements israéliens à Gaza ou comme à Jérusalem-Est. Les seuls tirs qu'on a entendus dans la nuit sont des feux d'artifice de joie. Cette trêve est sans condition. C'est selon Israël le calme en échange du calme. Mais chacun reste l'arme au pied. Nous sommes prêts à dégainer, déclare ce matin un cadre du Hamas. Nous restons prêts à protéger les civils israéliens. La réalité du terrain déterminera ce qui va se passer, disait hier soir le ministre israélien de la Défense. Les États-Unis, très impliqués, promettent une aide humanitaire à Gaza et promettent aussi de réapprovisionner Israël en missiles antimissiles Iron Dome. Selon les médias israéliens, le cabinet de sécurité est persuadé d'avoir considérablement affaibli le Hamas en visant ses drones, ses unités anti-chars, ses tunnels et ses outils d'espionnage ou de cyberguerre. À Gaza, un chef du Hamas revendique l'euphorie de la victoire, mais avec 232 morts à Gaza et 12 en Israël, c'est le plus lourd bilan dans le conflit israélo-palestinien depuis la dernière guerre à Gaza il y a 7 ans. Pour l'instant, le cessez-le-feu actuel ne règle rien au fond.
Merci Frédéric Mettezo. À Jérusalem pour France Inter, Joe Biden évoque une vraie opportunité d'avancer pour la paix. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra d'ailleurs au Moyen-Orient dans les tout prochains jours pour s'entretenir avec les dirigeants palestiniens et israéliens.
Il est 7h03 et nouvelle accélération du calendrier de vaccination.
Dans 10 jours, tous les plus de 18 ans pourront se faire vacciner, 15 jours plus tôt que prévu. Annonce hier soir de Jean Castex qui entend répondre à la demande des jeunes, impatients de passer un été le plus normal possible. Alors, tous prêts pour la vaccination. Reportage dans les rues de Paris de Mathilde Vinceneuf.
Il y a bien sûr ceux qui attendaient cette accélération de la campagne de vaccination, comme Marie, 23 ans.
Moi, je ne suis pas une personne à risque, mais c'est vrai que j'aimerais bien me faire vacciner. Et actuellement, je n'arrive absolument pas à trouver de rendez-vous pour le jour même ou le lendemain. Donc, pour moi, c'est une très bonne nouvelle.
Avec les vacances d'été qui approchent, Hicham, 27 ans, espère lui aussi obtenir un créneau début juin pour pouvoir partir début août.
Alors, j'ai prévu de faire la fête, donc du coup d'aller à Ibiza ou à Mykonos. J'hésite encore avec mes amis, donc on est en train de voir. Si on me demande un passeport vaccinal, je l'aurai.
D'autres renoncent au voyage. Tant pis, dit Antoine, 29 ans, il ne veut pas du vaccin.
Je crois qu'avec les pressions qu'il y a en ce moment, c'est sorti quand même vachement vite. Et j'ai pas confiance.
Et il est loin d'être le seul à douter. Charlotte, 23 ans, s'oppose depuis quelques jours à ses parents. Elle a peur de ces très rares cas de thrombose.
Moi, il faut savoir que toute ma famille est déjà vaccinée, mes grands-parents, ma tante qui a un peu un cancer, etc. Ils sont tous vaccinés. Moi, dans ma tête, je me disais, j'attends septembre, octobre. Comme ça, j'ai un peu de recul aussi sur les effets secondaires et tout. Enfin, parce que j'ai eu des galères avec la pilule, par exemple. Et j'ai failli avoir une thrombose, justement. Du coup, il y a un peu des antécédents là-dessus.
Elle aimerait tout de même partir en Grèce cet été pour voir son oncle. Alors, elle ira peut-être prendre un rendez-vous. Résignée, dit-elle.
Et justement, pour voyager cet été en Europe, un accord a été trouvé hier soir à Bruxelles. Ce pass Covid, qui doit faciliter le passage aux frontières, devrait être opérationnel d'ici le mois de juillet. Alors, comment cela va-t-il fonctionner, Angélique Boin, à Bruxelles pour France Inter.
Eh bien, un peu comme avec un billet de train, vous présenterez aux policiers qui vous contrôlent à votre arrivée, par exemple, en Grèce, un QR code en version numérique sur votre téléphone ou bien en version papier. Ce QR code européen, vous pourrez le générer sur l'application Tous Anti-Covid. Il indiquera soit que vous êtes vacciné, soit que vous avez un test PCR ou antigénique négatif sous certaines conditions, soit que vous avez des anticorps après avoir été malade. Voyager sera plus simple à compter du 1er juillet. Se félicite le commissaire en charge de ce dossier, le belge Didier Reynders, même si les États se gardent tout de même le droit de rétablir des quarantaines ou d'imposer des tests supplémentaires à votre arrivée.
C'est une bonne nouvelle à la fois parce que ça va permettre effectivement de garantir une meilleure libre circulation. La libre circulation, vous savez, c'est un droit fondamental des citoyens européens. Ça va aussi permettre de faciliter la levée des restrictions. Évidemment, et ça je peux comprendre les États membres, sauf si la situation sanitaire devait à nouveau se détériorer.
En cas d'apparition de nouveaux variants, par exemple, le Parlement n'a pas non plus obtenu la gratuité des tests, mais la Commission va débloquer des fonds d'urgence pour en financer une partie, en particulier pour les frontaliers. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Des touristes qui pourront par exemple à Paris revoir la Tour Eiffel à partir du 16 juillet. La situation sanitaire s'améliore également aux États-Unis et déjà des élus républicains veulent réduire, voire supprimer les allocations chômage mises en place au plus fort de la crise sanitaire. Correspondance à Washington de Grégory Phillips.
Au plus fort de la pandémie, le gouvernement fédéral avait décidé de verser à tous les demandeurs d'emploi $300 par semaine, en plus de l'allocation déjà perçue. Selon les États, les indemnités chômage varient de 230 à $820 hebdomadaires et sont versées sur une durée maximum de 5 mois. Mais dans 22 États américains, les gouverneurs ont chacun leur tour annoncé leur intention de supprimer cette allocation de $300 supplémentaires. En Caroline du Sud, le gouverneur républicain Henry McMaster justifie sa décision.
On ne va pas utiliser cet argent pour payer les gens à ne rien faire. On a des coups de téléphone, des messages qui viennent d'entrepreneurs de tout l'État et qui nous disent qu'ils cherchent à embaucher mais que les gens ne veulent pas venir travailler parce qu'ils se font plus d'argent en restant à la maison.
Le même gouverneur veut aussi supprimer les allocations versées à ceux qui recherchent un emploi depuis plus de 6 mois. Et dans tout le pays, ce sont 2,5 millions de personnes qui risquent de se retrouver sans aucune ressource, en particulier dans les communautés hispaniques et afro-américaines. Cette décision tombe en plein débat sur le salaire minimum aux États-Unis. En Caroline du Sud, par exemple, il est fixé à $7,25 de l'heure, ce qui fait dire à Bernie Sanders, le sénateur indépendant, payez correctement les gens, avec en plus une assurance santé, et vous verrez qu'ils travailleront. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et en France, la ministre du Logement a annoncé ce matin sur France Inter la prolongation jusqu'à mars 2022 au moins des 200 000 places actuellement disponibles dans des centres d'hébergement d'urgence. Habituellement, ces places sont fermées durant l'été. Nous entendrons Emmanuel Wargon dans le journal de 8h. Retour à présent sur la manifestation des policiers mercredi. Une manifestation qui va laisser des traces à gauche. Si la France Insoumise et Génération de Benoît Hamon ont refusé d'y participer, l'écologiste Yannick Jadot, les patrons du Parti communiste et du PS y étaient. Le socialiste Olivier Faure allant jusqu'à proposer un droit de regard des policiers sur les décisions de justice. Des propos qui ont un peu plus fracturé une gauche déjà très divisée, alors qu'une réunion est prévue lundi pour discuter d'une possible union en 2022. Florence Poron.
Gueule de bois, le terme n'est pas usurpé. Le patron du PS, Olivier Faure, a certes rétro-pédalé, mais le mal est fait. Du chef des écologistes, Julien Bayou, aux partisans de Benoît Hamon ou de Jean-Luc Mélenchon, la même sidération. Aller manifester devant l'Assemblée nationale aux côtés d'Éric Zemmour et du RN, ces gens n'ont vraiment aucune boussole, aucune charpente à Seine-Benoît Hamon. On est dans une crise de régime et Olivier Faure semble se rêver en guimolet de Marine Le Pen, renchérit un ancien cadre du PS qui considère que désormais la discussion sur l'union pour 2022 doit s'orienter vers des valeurs solides. Julien Bayou se dit très ébranlé par le virage sécuritaire du PS, du Parti communiste et aussi de son aspirant présidentiable, Yannick Jadot. On est pour la sécurité, pas pour le sécuritaire. L'union de la gauche, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et dans cette séquence, Jean-Luc Mélenchon a marqué des points, de là à en faire un candidat commun. De toute façon, le chef des Insoumis n'a pas l'intention de se rendre à cette réunion de lundi.
Laurence Perron, Snapchat est-il le réseau social de la drogue? Mercredi matin sur France Inter, Gérald Darmanin a expliqué que c'est sur ce réseau, où les messages sont éphémères, que les dealers communiquent à présent. Le ministre appelant l'entreprise américaine à agir pour lutter contre les trafics. Alors le deal en ligne, un phénomène en pleine expansion. Enquête signée Rémi Brancato.
Il y a 3 semaines, la brigade des stupéfiants de Mantes-la-Jolie en région parisienne a arrêté 6 personnes, des vendeurs de drogue qui opéraient sur Snapchat. Leurs produits étaient livrés et emballés avec de la publicité.
Sur tout ce qui est vendu, vous avez des codes Snap et comme ça, d'autres clients peuvent scanner ce code et du coup avoir accès à la page des vendeurs.
Les trafiquants opéraient sur un point de vente physique, explique ce membre de la brigade déléguée du syndicat Unité SGP Police, mais les réseaux sociaux leur ont permis de vendre à 150 km à la ronde, de Rouen à Chartres.
Vous commandez votre menu et puis vous êtes livré chez vous. Ce nouveau moyen de communication permet l'expansion du deal.
Ce phénomène, Clément Jérôme, sociologue à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'observe depuis 5 ou 6 ans.
Snapchat est loin d'être le seul réseau. Il y a également Telegram, Signal, WhatsApp, Instagram qui lui va plutôt servir de vitrine et les réseaux peuvent y poster des vidéos, des photos de leurs produits.
Difficile à chiffrer, mais les confinements ont bien fait augmenter les livraisons.
Le recours aux réseaux sociaux permet de faire passer tout un tas d'offres promotionnelles et des phénomènes tout à fait comparables à ce qui se passe au sein de l'économie légale.
Gérald Darmanin demande à Snapchat de lutter contre le trafic, mais selon nos informations, l'entreprise a déjà fourni des données à des enquêteurs français. Elle n'a pas répondu à nos questions.
Et dans l'Obs, le patron de Snapchat justement assure surveiller les échanges grâce à la détection de mots-clés et coopérer avec les forces de l'ordre. Feu Chatterton, Raphaël, Benjamin Biolay, Pomme, Malik Djoudi. Le Festival des Vieilles Charrues dévoile son programme ce matin et son organisation. Dans le respect, bien sûr, Mathieu Culeron, des gestes barrières.
10 soirées de concerts à partir du lundi 8 juillet. Les Vieilles Charrues ont dû tout repenser, comme le confirme Jérôme Tréhorel, le directeur du Festival de Carré.
On a vraiment tout changé sur le site. L'emplacement de la scène elle-même. On a créé une nouvelle zone de restauration de bar, des nouvelles zones de vie, des nouvelles entrées. Donc on sera sur 5000 personnes assises, donc il n'y a plus de distanciation. Donc on pourra occuper l'ensemble des sièges. Quand on dit assis, ça ne veut pas dire attaché. Donc les gens pourront être debout devant sa chaise à danser, applaudir et célébrer ce moment de live, avec des zones de restauration, de bar, des soirées qui démarreront autour de 17-18h qui se termineront autour de minuit.
Miossec, Woodkid, Giorgio ou encore Benjamin Biolay, la programmation des Vieilles Charrues a dû se concentrer sur les artistes tricolores tout en conservant l'éclectisme. Jeanne Russet est coprogrammatrice des Vieilles Charrues.
Une scène avec 3 artistes par soir. Il y a eu des très belles sorties d'albums ces derniers mois, ces dernières semaines. Feu Chatterton ou l'Impératrice, Giorgio plus récemment. Voilà, on est vraiment ravis de pouvoir les accueillir dès cet été et de retrouver les artistes sur scène.
Les Vieilles Charrues du 8 au 18 juillet à Carré. Pour les fans de Céline Dion, il faudra attendre 2023.
Regarde ces apparts qui s'illuminent, combien de ces familles se font du mal. Regarde le petit con du square, il repousse le plus possible la fin du match.
Et à noter que c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron doit annoncer la généralisation du pass culture, 300 euros par an pour les jeunes de 18 ans, 800 000 jeunes concernés.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, secret d'info, aujourd'hui sur les puissants réseaux de la banque de Lubac.